This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bonjour, je m'appelle Alice Vacher et avec l'agence de podcast Bababam, nous avons décidé de lancer l'empreinte. Nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de PDG de grands groupes, de directeurs de la communication, de la RSE, qui se battent chaque jour pour valoriser l'image, l'empreinte de leur entreprise. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Thibault Lamarque, fondateur de Castaly.
Bonjour.
Je suis ravi de t'accueillir.
Eh ben, moi aussi, enchanté d'être là.
T'as pas trop galéré pour venir ?
Non, je suis en vélo ou en city scoot, donc moi les grèves, ça me pose pas de problème.
T'as toujours été comme ça, t'as pas besoin de voiture ?
Et j'ai une voiture pour le week-end, mais elle bouge pas beaucoup en fait.
Ouais, en fait, parisien, on n'a pas trop besoin.
Alors moi, je suis boulonnais.
Ah t'es moi aussi.
Ouais, et voilà.
Ouais, et je nous ai fait venir jusque là, mais bon, écoute.
J'ai deux vélos, un vélo pour aller vite pour mes rendez-vous dans Paris, et puis j'ai un vélo cargo pour trimballer ma fille.
D'accord, ouais, bah, t'es bien équipé. Bon, donc les grèves.
Même pas peur.
Même pas peur. Bon, alors avant de me parler de Castaly. Tiens, d'ailleurs, pourquoi tu me raconteras aussi ça m'intéresse. J'ai envie de parler de toi. Du coup, ta fille, t'as un papa. Elle a quel âge, ta fille?
Papa heureux, presque 3 ans.
Tu m'aurais dit un peu pas malheureux. Oula, j'aurais commencé à me dire, bon, on va parler d'autre chose dans le podcast, en fait. Presque 3 ans. Ah ouais, donc t'es un jeune papa. Et du coup, raconte-moi ton parcours ou ton enfance, enfin ce que tu veux, mais moi je veux savoir pourquoi finalement aujourd'hui tu es fondateur de Castaly, papa et tout ça quoi. Vous avez 30 minutes.
Mais j'ai un parcours plutôt engagé. J'ai fait Dauphine, donc j'ai un parcours plutôt financier.
Comme ma petite sœur.
Voilà, j'ai fait le master affaires internationales. Et puis j'ai fait un mémoire de fin d'études sur l'accès à l'eau dans les pays en voie de développement.
Ah, avec donc déjà l'eau.
Un zoom sur le Maroc, tout à fait. Ensuite, je me suis fait embaucher par le plus gros producteur d'eau potable du monde, qui s'appelle Veolia Environnement. Je suis parti faire du M&A pendant 2 ans en Australie. Après, je suis rentré au siège de Veolia, dans la holding, pour faire de l'audit interne.
Et d'ailleurs, j'ai une anecdote sur Veolia que j'ai cru entendre lors d'une de tes précédentes interviews. Que finalement, c'est qui boit ton eau?
Ben c'est Antoine Frérot, c'est le président de Veolia. Il a plusieurs machines à son étage, donc je suis très fier d'avoir vendu un contrat Castaly au plus gros producteur d'eau potable du monde.
C'est énorme. Quand vous saurez exactement en quoi consiste Castaly, vous comprendrez mieux. C'est vrai qu'on a commencé par ça, mais on n'a pas été dans l'ordre. On n'a pas expliqué ce qu'était Castaly. Mais d'abord, on reprend sur ton parcours, puis après on va expliquer.
Donc 3 ans de mine d'audit interne où là je parcours le monde pour aller voir les acquisitions de Veolia 2 ou 3 ans après l'acquisition. Et puis après j'ai pris la direction financière d'Altereco qui fait des produits bio équitables. Altereco, c'est une super boîte qui a été fondée par Tristan Lecomte avant d'avoir le virus de l'entrepreneuriat qui me rattrape et de lancer Castaly.
Et comment s'est émue cette idée?
Castaly, en fait, c'est assez simple. L'idée est très simple, c'est de prendre de l'eau du robinet, de la microfiltrer, de l'améliorer, de lui retirer le goût du chlore, de la rafraîchir, et puis de la servir plate ou pétillante dans des jolies bouteilles. Et comment est venue l'idée? En 2006, j'ai découvert SodaStream, et j'en ai offert absolument... Alors, c'était vraiment les débuts de SodaStream en France. Hein. C'était difficile de se fournir les machines, les cartouches, mais j'en ai acheté... une quinzaine que j'ai offert à ma famille, à mes amis. J'étais le premier acheteur de SodaStream En 2006 ou 2007, et puis en 2010, donc SodaStream a vraiment réglé mon problème de la bouteille plastique. J'en vois une sur le bureau.
Je pouvais pas faire autrement. En plus, normalement, j'ai une autre bouteille, mais avec les grèves, je ne pouvais pas.
Je vais t'offrir une gourde, Castalie.
Ah ouais, avec plaisir.
Et donc SodaStream a réglé donc ce problème que j'avais, puisque moi je bois que l'eau pétillante.
Moi aussi.
Et
d'où la bouteille. Alors là, je ne cite pas de nom de marque, mais.
Et en 2010, je me suis posé la question de comment est-ce que je pouvais adapter SodaStream en B2B. Alors d'abord dans les restaurants et puis assez vite dans les entreprises.
Et ça a pris tout de suite. Comment t'as fait pour démarcher ce secteur? Est-ce que c'était des questions qui se posaient d'ailleurs ces gens-là?
Alors moi, je connaissais pas du tout le monde de la restauration. Donc comme un bon entrepreneur, j'ai testé plusieurs choses en parallèle. Donc j'ai testé le B2B, le B2C. Dans B2B, j'ai testé les entreprises et les restaurants. Il y a un segment de restaurants qui a bien répondu. Ce segment, c'est la bistronomie et la gastronomie, qui dans les années 2011, 2012, 2013 était en pleine explosion avec toutes les émissions de télé sur les chefs, tout le retour au fait maison, parce qu'il y a quand même tout ce scandale d'un certain nombre de restos parisiens. Je pense qu'en année 2010, c'était la majorité des restaurants parisiens qui ne cuisinaient pas. Et donc, finalement, ces chefs, c'est des chefs attentionnés, ils font attention à la planète, attention à leurs clients. Et Castalie, c'était finalement un produit logique pour eux.
Ils peuvent le valoriser, ça, auprès de leurs clients?
Ils le valorisent. Alors, bien sûr, ils le valorisent. Parfois, ils l'offrent, parfois, ils la facturent. Mais dans tous les cas, ils la font payer moins cher qu'une eau minérale.
D'accord. Donc, elle va moins cher. Super. Et comment, raconte-moi un petit peu du coup au quotidien. Déjà, vous êtes combien chez Castanier?
On est 65.
Ah, ça a grossi. Ça a été fondé quand?
Ça a été fondé en 2011. Premier client fin 2011. J'ai mis un peu de temps à sortir la machine, à avoir les premiers clients, le proof of concept.
2011, c'était, même si la consommation responsable commençait à apparaître, c'était pas encore comme aujourd'hui un des enjeux actuels. Même si on va me dire qu'aujourd'hui c'est pas encore un enjeu actuel, moi je trouve que ça quand même.
Ce qui est sûr, c'est que j'étais en avance de phase.
Ouais, selon moi, oui.
Mais j'avais besoin d'avoir ce temps-là de toute manière pour construire des bonnes bases et des bonnes fondations. Et effectivement, là, sur les 12 derniers mois, on est passé de 30 à 65. On a doublé le parc machine. Donc, finalement, en un an, il s'est passé la même chose que sur les 8 premières années. Donc,
c'est ça. Et comment tu communiques, du coup, auprès de tes cibles?
Et alors, nous, c'est que du B2B, avec la partie hôtel et restaurant, et puis une partie qui est très dynamique aujourd'hui, qui est la partie entreprise, où là, par exemple, dans un coworking, il pourrait très bien, on équipe déjà plusieurs dizaines, il pourrait très bien avoir une machine Castalie avec des contenants à disposition des gens qui passent.
Et ça, et comment tu les démarches? C'est des équipes comme ça?
Ça, j'ai des équipes commerciales, donc...
Et t'aimerais pas ouvrir au B2C? Comme du SodaStream, mais t'as peur qu'il y ait déjà la concurrence, non?
Alors, le B2C, c'est un autre métier. On n'est pas mauvais en B2B. Là, on va lever de l'argent pour accélérer sur ce B2B et vraiment prendre le marché, parce que là, il y a un marché qui est gigantesque, en fait. Ça fait à peu près un an et demi, deux ans qu'on voit la bascule où les gens ont marre du plastique et on a une accélération très forte de la demande. Donc non, là aujourd'hui le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour grossir et scaler le B2B.
Et la bouteille est en verre, du coup?
Les bouteilles sont toutes en verre, ça peut être des bouteilles.
C'est peut-être ça aussi que pour le B2C, c'est plus lourd d'être... Enfin, comment tu ferais d'ailleurs si t'étais en B2C?
Ben, si j'étais en B2C, je ferais peut-être des machines pour les particuliers qu'on mettrait chez les gens et qui ferait que les gens ont plus à porter des packs d'eau et puis ils ont plus acheté des bouteilles en plastique qui sont...
Tu vois, voilà, c'est pour ça que tu dois me faire une machine B2C, parce que voilà... T'as compris? Avec ma bouteille en plastique.
Avant la machine B2C, là, on va sortir des produits B2C. On va sortir une gourde très design, ouais, qui a été dessinée par Olivier Saguez. Et donc, on va vraiment arriver avec un produit qualitatif fabriqué en France. Et puis, en fin d'année, on aura un autre produit B2C. On va venir donner du goût et des propriétés à l'eau.
Comment tu vas faire ça?
Eh ben avec des fruits bio, avec
donc ce sera
avec
en fait des infusions, et puis tout ça ce sera sain et bio, et ce sera des produits bio, du coup?
Of course.
Tout de A à Z. Qu'est-ce qui est pas green, du coup, chez toi?
Alors, on essaye d'être...
Ça y est, j'ai mon Dieu.
Non, mais on...
Du coup, normalement, je valorise que... forcément. Alors, qu'est-ce qui est green? Toi, qu'est-ce qui est pas green, alors, dans ton...
Au quotidien, on essaye de s'améliorer en permanence. Il y a un an et demi, on a travaillé avec EcoDev, qui est un cabinet de conseil... qui nous a fait deux choses. Une analyse de cycle de vie produit qui nous a permis de voir qu'on avait quand même un impact 90% inférieur à une bouteille en plastique classique. Donc ça a confirmé qu'on avait un impact largement meilleur pour la planète qu'une bouteille en plastique. Et puis deuxième chose, on leur avait demandé un audit RSE et donc ça, ils ont défini un certain nombre de tâches où bah on n'était pas parfait. Donc on n'est pas parfait, mais
comme les serveurs un peu green, des trucs comme ça, c'est plus en interne, non?
On n'est pas parfait, mais on s'améliore. Donc là, par exemple, aujourd'hui, un collaborateur qui arrive chez Castalli, il peut avoir un pass Navigo, mais aussi un vélo électrique gratuitement.
Ah oui, donc jusqu'au bout du... Comme quoi, tous les process sont optimisés. Et toi, en tant que... Alors, au-delà du côté professionnel, personnellement, t'es quelqu'un d'engagé plutôt ?
Moi, je me considère comme ça, mais enfin, je suis assez banal. Enfin, alors, je suis végétarien.
Tu sais que c'est pas banal pour les trois quarts des personnes. Pour peut-être toi qui es un peu plus militant, ça te paraît normal, comme ne pas avoir de voiture et venir en vélo électrique. Mais pour beaucoup, pas forcément, tu sais. Donc, tu es plutôt engagé quand même.
Alors, effectivement, et d'ailleurs, mon parcours professionnel en atteste. Enfin, Alter Eco en 2000, je sais plus quand c'était, 2006 ou 2007, non, 2009. Alter Eco, c'était une boîte de militants. Enfin, donc, en ça, oui. Mais moi, je le vis pas comme une contrainte. Enfin, ça veut dire que
Moi aussi, je suis un peu écolo, hein, et je vis pas du tout comme une contrainte.
Le vélo, le vélo électrique, une fois que je me suis mis dessus, par rapport à mon scooter, j'avais un Vespa, le Vespa, j'en ai plus jamais eu besoin parce
mais
que...
Mais même pas envie, je pense.
Non, mais pas du tout. Tu Donc, ça m'a pas manqué un
bien
instant.
Bien sûr. En fait, moi, là, tu sais, je marche énormément. Je marche 2 heures, j'ai marché 2 heures pour venir. On me dit, mais t'es complètement folle.
Là, t'es venu de Boulogne à pied?
Oui.
Ah ouais.
J'ai fait ma randonnée. Tu vois? J'ai fait mes pauses, ma randonnée, tranquille. Mais en fait, c'est un vrai plaisir. Et quand les transports...
Mais la prochaine fois, moi, j'ai mon bureau à Issy-les-Moulineaux. Si tu veux, on fait le podcast à Issy-les-Moulineaux.
Et ben, on fait en marchant. C'est comme ça. Je te promets, mais je marche tous les jours autant, en fait. Moi, c'est devenu un plaisir, en fait. Au début, en effet, comme beaucoup de choses, l'écologie, enfin, la consommation responsable, on peut pas être parfait partout. Mais il y a des choses qui nous font plaisir, en fait, de les faire. Et on teste des nouvelles choses. C'est les curiosités. C'est une façon de, même dans la consommation de produits, on découvre des choses, en fait. Et c'est pour ça que quand tu me dis, non, je suis pas forcément, très engagée. Si, pour moi, tu l'es. Et c'est bien parce que, du coup, ça transpire et ça fait, et pour ta marque, c'est encore d'autant plus authentique, je trouve, tu vois.
Alors, j'ai ma directrice marketing et ma responsable de com qui essaye de me calmer un peu parfois dans mes déclarations pour pas être trop tranchant.
Parce que je peux être
plus clivant que et là on a beaucoup travaillé sur le positionnement de marque de Castalli et sur là je t'ai montré notre manifeste. On a travaillé avec deux créas pour revoir toute la charte graphique et on veut vraiment être sur l'écologie positive.
Et d'ailleurs, est-ce que même dans la charte graphique, dans le choix des couleurs, il y a quelque chose d'écologique ou pas?
Alors,
parce que parfois, il y a des couleurs plus écolo que d'autres à produire.
Alors, dans le choix des couleurs, je saurais pas te répondre. Par contre, ce qui est certain, c'est que dans l'impression, dans la façon dont on va le décliner, ça, on fera très attention.
Et quelles sont les prochaines? Là, aujourd'hui, ça commence à s'installer. Tu m'as dit qu'il y avait un boom de demandes, donc ça, c'est génial. Tu vas être content. Donc, les prochains challenges, c'est un peu donner du goût.
Alors le prochain challenge, c'est d'abord de vraiment grossir sur cette partie, toujours sur les restaurants, où nous on adore avoir des chefs engagés, on adore avoir des hôtels engagés, c'est des endroits un peu magiques, hein. Un chef, c'est chez lui, il vous invite chez lui et puis il vous fait découvrir sa cuisine, donc ça, moi à chaque fois que je vais dans un restaurant et que je découvre une cuisine, c'est un voyage. Donc ça, on est très heureux de travailler avec les chefs et on est très content. Et puis après, on a tous ces, à la fois ces grands groupes, mais aussi toutes ces startups qui ont envie d'avoir une machine Castalli pour mettre fin à la folie des bouteilles en plastique. C'est la mission de Castalli. Et finalement, il y a pas de raison de pas mettre fin.
Sur le marché de l'eau, c'était pas compliqué de s'installer avec les grands acteurs actuels, justement. En plus, tu venais de Veolia, quand même. C'est ça qui est complètement fou.
Alors, sur les producteurs d'eau potable, non, j'ai jamais eu de sujet. Par contre, effectivement, au début de Castalli, j'ai pu avoir quelques problèmes avec les fabricants de bouteilles en plastique.
Tu m'étonnes. Et là, aujourd'hui, c'est plus un sujet, maintenant.
Non, c'est plus un sujet. Je pense que là, maintenant, on fait partie des murs. Et puis surtout, on est aujourd'hui une vraie solution. On a eu la visite de deux ministres, il y a pas très longtemps, donc Brune Poirson et Elisabeth Borne.
Est-ce que les ministères sont équipés ou pas?
On commence à, alors, le ministère d'écologie, il est équipé, on a équipé Matignon. Donc, bien sûr que on est dans les entreprises, mais aussi les institutions. Enfin, le problème du plastique, ça concerne tout le monde, hein.
Bien sûr, mais d'ailleurs, tu penses qu'à terme, même les espaces là, quand tu me parlais d'espaces de coworking, de chaque entreprise pourrait avoir, c'est même chaque foyer finalement, à terme, même le B2C.
Bah, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que toi et moi, on mange toutes les semaines l'équivalent d'une carte bleue de plastique. Et quand on regarde une carte bleue,
Ça coûte cher.
Ben ça coûte cher, ça rend malade. Donc il y a plein de raisons d'arrêter de boire de l'eau en bouteille et d'arrêter de mettre du plastique dans la nature. À partir du moment où t'as dit ça, c'est comment est-ce que tu fais pour limiter ton empreinte plastique, parce que l'empreinte carbone, c'est bien. Là, l'empreinte carbone, le CO2, là, tout le monde en parle. On a compris, le réchauffement climatique, on est dedans. Mais l'empreinte carbone, c'est une chose. Ça, il faut baisser notre empreinte carbone. Et le deuxième sujet, c'est comment est-ce qu'on peut baisser notre empreinte plastique. Et donc là, c'est tout le plastique à usage unique qu'on retrouve finalement partout. Aujourd'hui, le plastique à usage unique, il y en a partout.
C'est drôle parce que j'enseignais, c'était en l'été dernier, chez PPA en pôle alternance, et ils devaient justement trouver, enfin les élèves devaient trouver des idées pour monter une start-up. Les trois quarts voulaient monter quelque chose sur l'eau pour lutter contre ce plastique, justement ce sixième continent. Et en fait, alors ils avaient des idées complètement farfelues, hein, c'était avec des espèces de citernes Volvic, Evian, machin, et c'est dingue parce que t'aurais dû venir leur parler. C'était génial. Et là, c'est là que j'ai vu que tous avaient cette conscience. Mais le plastique, quand ils pensaient plastique, tout de suite, ils voyaient bouteille d'eau. Et c'était dingue. Et pourtant, il y avait 200, 300 élèves. Et tous avaient envie de faire un truc sur l'eau et le plastique.
La bouteille, c'est un peu un totem. Ça veut dire que c'est pas le gros du volume du plastique. Alors, on a fait pas mal de... Enfin, j'ai fait plusieurs tribunes ces derniers mois pour... interpeller le gouvernement sur ces bouteilles en plastique, parce que c'est le business de Castalli et c'est notre expertise. Mais je pense que au-delà de la bouteille qui est un totem, il faut aller beaucoup plus loin sur la réduction des plastiques. Donc là, le gouvernement a voté une loi pour l'arrêter en 2040. Et ce que sont venus nous dire les deux ministres, c'est qu'il fallait pas attendre 2040 pour arrêter l'usage de ce plastique à usage unique. Donc moi, je pense que tout le monde, on peut réduire significativement cette addiction au plastique avec des gestes simples. Enfin,
c'est vrai. Et donc en concurrence directe à SodaStream.
SodaStream, c'est du B2C.
D'accord, ils font pas du tout de B2B, donc t'as pas de concurrent. Non.
Alors on a des concurrents, on a un concurrent sérieux. Après, il y a beaucoup de boîtes. Moi, je pense qu'une des spécificités de Castalli, c'est que à la fois sur les restaurants, mais aussi sur les entreprises, on a des machines qui sont fabriquées en France ou en Italie. On a des machines qui sont très design. On a eu pas mal de prix de design. Elles sont dessinées par Helium Studio. Enfin, là, aujourd'hui, on a toute une électronique connectée qui vient nous donner de nouveau une avance par rapport à tout ce qui peut exister chez les concurrents. Donc, moi, je pense qu'on a une spécificité qui fait qu'on est différent de ce qui existe sur le marché. Et encore une fois, la mission de Castalli, c'est pas de vendre des fontaines à eau. La mission de Castalli, c'est de mettre fin à la folie des bouteilles en plastique. Mmh. Donc, ça, on est une boîte ESS, c'est écrit dans nos statuts.
Et donc, t'encouragerais presque les autres acteurs à se lancer aussi pour réduire.
En tout cas, moi, je suis très content quand j'ai des concurrents, et mon vrai sujet, c'est les bouteilles.
Même pour les sodas, du coup.
Et peut-être un jour pour les sodas.
Quand? Quel horizon?
Peut-être quand je lancerai des eaux parfumées.
Il y a plein de choses à venir, du coup. Qu'est-ce que t'as envie d'ajouter quelque chose, toi?
Tu me demandais la définition de, enfin, Castalli, d'où ça venait. Quand j'ai monté cette boîte, c'est une boîte qui avait beaucoup de sens pour moi, par rapport à tout le parcours que j'ai pu te décrire, et puis mon premier job, mon mémoire de fin d'études sur l'eau. Et Castalli, c'est la nymphe des sources et des fontaines. Donc c'est une naïade crénée.
C'est vrai que ce mot, ce nom de marque, je l'ai trouvé magnifique.
Et voilà, donc c'est la Grèce antique, et finalement, ça a beaucoup de sens.
Et le logo, du coup, il a un lien avec? Parce qu'il fait assez grec, le logo, maintenant que tu m'en parles.
Alors, pour le coup, le logo est beaucoup plus contemporain.
Pas du tout. Alors, je suis complètement à côté de mon branding, moi. T'aurais pu faire un storytelling de dingue, là. Tu fais, je t'avais réinventé un truc.
Oui, c'est Apollon qui nous l'a dessiné.
Voilà, c'est Apollon. Vous avez... donc pas du tout... aucun lien entre le logo et le nom.
Le nom, c'est cette nymphe. Et puis, donc, il s'est noyé au pied du Montparnasse, dans une source qui a pris son nom. Et puis le logo, je l'ai travaillé avec des designers.
D'accord, pas de lien. Écoute, merci en tout cas, merci pour toi. Et moi, j'ai pas le droit d'avoir une bouteille puisque tu as qu'en B2B, mais la gourde, du coup, je vise la gourde. Tu la sors quand?
Et la gourde, elle va sortir en avril.
Ah, c'est mon anniversaire le 14. Tu connais déjà mon cadeau d'anniversaire.
Je note la date.
Merci d'être venu dans l'empreinte.
Merci Alice.
Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. N'hésitez pas à retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Bababam et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants. Je me ferai un plaisir de les accueillir.